la bonne santé de notre cerveau. Mais combien faut-il d'heures de sommeil pour que notre cerveau aille bien? Alors, et c'est ça en fait.
Là, on ne parle pas de l'état général, on parle vraiment du cerveau.
Le cerveau. Ouais. Là, véritablement, c'est une étude que je sors de mon chapeau ce matin. Une étude sur le sommeil et le cerveau, à savoir le nombre d'heures maximum qu'il faut avoir pour ne pas endommager son cerveau. À ton avis?
Allez, je dirais, là si on parle vraiment que du point de vue cerveau, peut-être 4-5 heures?
Non, plus.
Ah, c'est plus.
Ouais, donc en fait, on peut le dire, nous endommageons, notre cerveau.
On ne dort pas assez, allez, 6 heures.
Plus.
Ah non, ouais, 7 heures.
Ouais, ouais, c'est 7 heures.
7 heures.
7 heures. 7 okay. heures. Il faut dire que beaucoup d'entre nous sont en dessous des recommandations minimales en la matière parce que, comme le rappelle donc cette étude, on considère en moyenne qu'une nuit de 7 heures, est propice à un équilibre acceptable pour le cerveau. Voilà, les travaux d'une équipe de l'université de San Antonio aux États-Unis ont mis donc en avant un rôle probable entre un sommeil plutôt long et l'altération de compétences cognitives, le développement de démence et même le risque de dépression. Donc si c'est trop long, c'est pas bon. Au-delà de 8 heures, apparemment, c'est trop.
Ah oui, donc il faut ni trop ni pas assez.
Vraiment, le chiffre idéal, c'est 7 heures de sommeil. En dessous, on altère le cerveau, on lui fait mal. Au-dessus, eh bien, on lui fait mal aussi parce qu'il y aura trop d'heures de sommeil.
Voilà de quoi nous mettre la pression au moment de se coucher. Voilà, il faut 7 heures, pas
chiffre
plus.
7.
Pas moins.
Okay. Exactement. Voilà.
Bon, et si vous dites le matin, dites donc ceux-là, ils sont vraiment. Ils ne sont pas futés les deux du matin sur Radio Lac. Eh bien, c'est parce qu'on ne dort pas.
C'est ça, exactement.
Voilà,
c'est pour ça. Parce qu'on manque de sommeil. Et c'est bien pour ça qu'on va pouvoir porter plainte contre notre propre patron. Tu vois ce que je veux dire?
C'est à cause de lui.
Exact.
Si on est deux bêtas.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Si des fois on perd nos mots, si des fois on n'est pas dedans, si des fois on croche. C'est à cause de lui.
Tu sais ce qu'il va nous dire? Vous avez qu'à vous coucher plus tôt.
C'est ça.
Voilà, il n'aura pas tort.
C'est vrai.
Toute la nuit, réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
Thank you. Fabien et Carole, on parle de quoi aujourd'hui ?
On parle de quoi aujourd'hui ?
Et comme chaque vendredi, on s'intéresse aux histoires de couple, en l'occurrence aujourd'hui, à notre partenaire, Carole.
Exactement, on parle de couple, on parle de partenaire. Et avec cette question, est-ce qu'on choisit un partenaire qui ressemble à nos parents ? Eh bien, les experts répondent. Et quand je parle de nos parents, Fabien me regarde, me dit, elle n'est pas sérieuse de me dire ça quand même. Bah si, au-delà de la simple logique de trouver le ou la partenaire idéal pour être heureux, eh bien, se pose cette question, la partenaire qui nous attire, c'est qui exactement ? Il y a une idée récurrente, Fabien, qui stipule que nos choix sont dictés par la recherche de l'image de nos parents, ou du moins d'une figure parentale. Le choix de nos partenaires, en fait, serait influencé par des personnes auxquelles on est attaché depuis l'enfance. Et ça, c'est prouvé par les experts.
Bon, en même temps, c'est un peu logique, parce que les parents, bah, c'est le premier contact avec les autres, finalement, quand on arrive sur Terre.
Oui, c'est exactement
ça. Donc ça peut se comprendre.
C'est ça, c'est l'attachement, en fait, de l'enfant à ses parents qui contribue justement à créer des connexions intérieures, en fait, une forme de câblage émotionnel. Ce sont précisément ces liens-là qui seront activés plus tard, à l'âge adulte. Et lorsqu'on rencontre des éléments qui nous rappellent nos parents, quelque chose prend vie. Voilà, une stimulation positive, selon les experts, qui influencerait donc nos choix. Elle nous pousserait dans les bras du sosie potentiel de la figure parentale. Ouais. En tout cas, c'est une impression de connaître déjà l'autre. Je ne sais pas, tu as déjà vécu ça peut-être avec ta chérie.
Écoute, alors pas consciemment en tous les
non,
cas.
Non, c'est vrai. Ouais. Alors moi, j'ai déjà vécu ça, de rencontrer quelqu'un, de se dire, oh, j'ai l'impression que je le connais depuis des années. Alors en fait, c'est pas l'amour, ce sont vraiment les échos de l'enfance qui parlent. Et ça, c'est hyper intéressant,
donc,
je trouve.
Tu veux dire que tu es sortie avec le portrait craché de ton père, quasiment ?
Pas du tout, pas ouais. Portrait craché.
Mais en tous les cas, qui ressemble. Enfin, voilà, très caractère.
Je suis sortie avec une personne voilà, que j'ai rencontrée, et au bout de quelques heures, je me suis dit, oh, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis des années.
Et ça a fonctionné ? Ça a bien marché ?
Ça a plutôt bien fonctionné, c'était le père de mes enfants. D'accord. Donc ça a fonctionné. Ouais. Bon, ça n'a pas plus fonctionné depuis, hein, mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est quand même une belle histoire quand ça fait 10 ans. Mais en tout cas, dans cette logique, on serait également amené à répéter certains schémas familiaux, Fabien. On peut constater parfois, donc à notre plus grande surprise, qu'on agit de la même façon quand nos parents font quelque chose. C'est particulièrement relatif dans notre couple. Je sais pas, t'as pas eu déjà cette idée, toi, cette image ?
Je t'avoue que j'y ai jamais pensé. Et là, comme ça, de but en blanc, je t'avoue que j'arrive pas à faire de lien. Mais ça peut exister, certainement. Oui. Alors, certainement.
Ouais. L'idée, c'est pas d'avoir, comme tu le dis, le sosie de son père, parce que là, le problème, c'est que ça pourrait satisfaire quelques pulsions que Freud soutiendrait. Et là, c'est un petit peu malsain.
Si on va dans le Freud, le vendredi matin.
Non, mais c'est vraiment des éléments plus subtils, comme la couleur des yeux, l'expression du visage, qui nous rappellerait éventuellement une figure paternelle et quelque chose, en fait, qui nous rassure, qui nous conforte.
Le meilleur de Lac, en replay,
sur la nouvelle application Radio Lac.
came from. So I'm dancing on a narrow brink, but you follow me without a blink. Your love reaches me in the face of all my vanity. No matter who I am. To be as I think how it's good for me. Sure, I like you to do what's in my head would be nice of you. But you are loving far too close. You know me well from head to toe.
Mais c'est quoi le hic ?
C'est la journée mondiale des jeux aujourd'hui.
Exactement, une occasion en or, Fabien, de ressortir ces vieilles boîtes poussiéreuses du placard hein, qui sentent le carton,
oui.
Mais aussi
le carton vieilli,
le moisi, du coup, ouais. La nostalgie, oui, un peu, et la trahison surtout, parce que les jeux de société de notre enfance, c'est toute une histoire en fait, des moments de partage, de rire, certes, d'amour fraternel, mais aussi des moments qui dégénéraient systématiquement en crise diplomatique. On est d'accord quand même.
En baston hein général.
Parce que soyons honnêtes, qui n'a jamais retourné le plateau de Monopoly en hurlant « T'as triché ?» hein, on est d'accord.
Et balancer tous les billets à la figure des autres joueurs.
C'est vrai, on appelait ça du divertissement. C'était pas du divertissement, c'était un test de résistance psychologique. On nous vendait par exemple la bonne paye comme une initiation à la gestion du budget. Mensonge, c'était un entraînement à vivre en fin de mois avec 100 balles. Hein, franchement. Et une carte chance qui dit fuite d'eau, payer 800 balles. Ouais. Mais comment je vais faire ? Eh bien, écoute, tu fais crédit. Eh oui. Ouais. Et Risk, tu te rappelles de Risk, ce jeu ?
Oui.
Un jeu censé apprendre la géopolitique.
C'est vrai.
Sauf qu'en réalité, tu avais toujours un cousin de 8 ans qui devenait dictateur de l'Asie en deux tours et qui exigeait qu'on l'appelle suprême stratège.
Ouais.
Ambiance extrême. Dans la famille, bien sûr, il y avait le docteur Maboul et on en a déjà parlé dans cette émission.
Ce jeu.
Moi aussi, j'aimais bien le docteur Maboul. Un jeu inoffensif, bien sûr, hein. Sauf que ça devenait stressant, comme une opération à cœur ouvert, bien sûr. Un faux mouvement et forcément, c'était l'électrocution. Bref, et les traumatismes qui vont avec. Et le pire. Le pire, c'était les alliances secrètes entre frères et sœurs. Ils te faisaient croire qu'ils étaient avec toi, puis ils te poignardaient dans le dos au moment du tirage des cartes Uno. Un plus 4, paf, dans ta tête. Et voilà, c'était l'arme nucléaire du jeu de société. Et ça aussi, forcément, ça fait quelques vagues dans la famille. Bref, aujourd'hui, c'est quand même la journée mondiale du jeu. Alors, on rallume les souvenirs, bien sûr. On réunit la famille, les amis. Et cette fois, on promet de ne pas balancer le Scrabble hein, par la fenêtre. Quoique, avec tous les nouveaux mots qu'il y a dans le dico,
ouais,
à
vrai.
Mon avis...
Le meilleur de Lac, en replay,
sur radiolac.ch.
I am not so, I am super, I am unequal.
Radio-Lac, Eric Ashkar ramène sa science dont il suffit de demander.
Il suffit de demander.
Bonjour Eric Ashkar.
Bonjour Sophie.
Chaque semaine, vous nous régalez avec votre connaissance. Hein, vous vulgarisez la science, vous nous parlez d'astronomie. Aujourd'hui, je crois qu'on parle d'astronomie. Hein.
On va parler un petit peu d'astronomie. On va parler de la Lune parce que on la regarde. Finalement, on voit des phases. De jour en jour, ça change. Et puis, on se dit, mais bon, les phases, les croissants, les quartiers, mais est-ce qu'on connaît vraiment tous les noms et on connaît bien l'ordre?
Alors, je vous réponds non.
Alors, je vais récapituler.
Ah bah oui, s'il vous plaît.
Alors, on commence par une nouvelle Lune. C'est un alignement, donc le Soleil, la Lune et la Terre. Donc, la Lune se trouve du côté du Soleil. De ce fait, on ne la voit pas parce qu'elle n'est pas éclairée par le Soleil. C'est ce qu'on appelle la nouvelle Lune.
La nouvelle Lune, oui.
Et puis, quelques jours après, on voit un tout petit croissant au coucher du Soleil, très, très, très fin, qui est éclairé sur le côté droit de la Lune pour l'hémisphère nord. Et ce petit croissant, finalement, c'est le démarrage de la Lune, enfin, tel que nous la voyons sur Terre. On a ce croissant. Et de jour en jour, ce croissant va se transformer quelques jours plus tard, 7 jours après la nouvelle Lune, en premier quartier.
Voilà.
Et donc, on a la moitié de la surface de la Lune qui est éclairée par le Soleil. Puis après, la Lune va continuer à croître. Donc, la surface va être éclairée à plus de 50%. Mais je vais vous poser une question, Sophie.
Oula, c'est un piège.
Quel est le nom de la phase de la Lune lorsque la Lune est éclairée entre 50 et 100%? Alors, c'est peu connu. Ça s'appelle la Lune gibbeuse.
Non, mais attendez. Franchement, j'ai entendu parler de ça, mais franchement, ce n'était pas dans ma tête. Là. La Lune gibbeuse. Et pourquoi gibbeuse, alors?
Alors, je l'ai su. Je m'en souviens plus.
Ah bah, alors, si vous ne savez pas, comment on fait?
Je fais preuve d'humilité.
Très bien. Donc, la Lune gibbeuse. Okay.
Donc, c'est la Lune gibbeuse. En fait, la Lune gibbeuse, c'est le complément du croissant.
D'accord.
Et donc, du premier quartier jusqu'à la pleine Lune, la Lune est en phase gibbeuse croissante. Donc, la phase va croître jusqu'à la pleine Lune.
Ouais, ouais.
Et là, la pleine Lune, ça veut dire 100% de la surface éclairée. Donc, on a vraiment le disque complet éclairé. Ouais. Au passage, si on prend un petit instrument et qu'on regarde la Lune en pleine Lune, on verra zéro cratère puisque la lumière arrive perpendiculairement à la surface, donc il y aura plus d'ombre portée à la surface de la Lune. Puis après la pleine Lune, on va commencer à décroître au niveau de la phase. Et là, la phase s'appelle la phase
gibbeuse. Voilà.
Donc on retrouve la phase gibbeuse, qui est la phase donc décroissante. Puis lorsqu'on va arriver à 50%, on va se retrouver en dernier
quartier.
Voilà.
Bingo. Waouh.
Bingo.
J'ai tout bon.
Et donc, après le dernier quartier, quand on va diminuer la phase moins de 50%, on va se retrouver en
pleine lune.
En dernier croissant.
Ah oui, dernier croissant, pardon. Voilà, moi je veux vite aller à la pleine lune. D'accord.
Et le croissant, il est visible le matin avant le lever du soleil. Puis une fois que le croissant disparaît, on se retrouve en nouvelle lune.
En nouvelle lune. D'accord.
Et on a fait le tour.
Ok, très bien, super. Bah, j'ai raté la pleine lune ou quoi?
Elle était au milieu.
Elle était au milieu. Ah bah voilà, c'est celle qui nous fait bien des soucis parfois, la pleine lune.
Qui nous empêche de dormir.
Oh là là.
Mais
c'est réel, ça. Faudra genre qu'on fasse une chronique dessus. Ah, les influences de la Lune, parce que alors ça, il y a tellement des idées reçues là-dessus. Ah, j'ai pas dormi, c'est à cause de la Lune. Là. Décidément, on lui donne beaucoup d'importance à cette
Beaucoup
lune.
D'importance. Enfin, ben, c'est vrai qu'on va parler dans les chroniques qui viennent à venir, on parlerait des marées, et elle a beaucoup d'influence au niveau déjà des océans et des mers.
Ouais.
Mais c'est ce qui serait intéressant, ça serait de questionner, par exemple, les forces de l'ordre, de questionner les hôpitaux.
Pour savoir s'il y a plus de problèmes les soirs de pleine Lune.
Ça serait très intéressant de questionner des professionnels de ces métiers pour justement avoir des témoignages concrets qui viennent du terrain pour voir si effectivement il y a des signaux.
Vous êtes concret, vous êtes scientifique. Alors merci beaucoup Eric. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, on vous retrouve sur la page Il suffit de demander, radiolac.ch.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac. I know you're there in Arizona with a big smile singing a song. A family of two doing fine without me. I don't wanna change a thing now. Right from the start, we were wrong. I was weak, full of lies, and much too young. I want you to know I'm sorry for all the pain. You were the best at losing everything. Ruby red, ruby, ruby red, ruby. All for you, all for you. Thank you.
Because the more I say makes my heart harder every day, makes my heart harder every day. Stars and stripes are all for you.
Maman, maman, maman.
Hello, c'est Kitri Dulot sur Radio Lac. Retrouvez-moi sur Maman Pourquoi, le podcast éducatif et rigolo qui répond à tous les pourquoi.
Pourquoi ?
Et les comment de nos petits curieux.
Comment ?
Maman Pourquoi, c'est tous les mercredis sur vos plateformes préférées, sur le site et l'application Radio Lac.
Cause I can never
horoscope de Fabien et Carole.
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Oui, mais au fast-food aujourd'hui, Carole.
Exactement, oui, oui. Il s'agit de psychologiser un petit peu nos habitudes au fast-food, apparemment.
Psychologiser ?
Oui, exactement. Wow. Et ça n'a rien de fantasque, parce qu'il y a une psychologue canadienne qui prétend pouvoir vous percer à jour, en tout cas, votre comportement en regardant uniquement ce qu'il y a sur votre plateau.
C'est incroyable, ça. Donc, elle est capable de tirer un peu les grandes lignes de notre personnalité, simplement en voyant ce qu'on va manger.
C'est exactement ça. Alors, c'est à prendre peut-être avec des pincettes, mais je voulais quand même vous en parler parce que même si on évite de mal manger, on passe tous à un moment donné par la case fast-food parce qu'on est pressé, pourquoi pas, parce que les enfants réclament, bref, parce qu'on veut être cool aussi. Tout simplement, je sais pas, tu vas souvent au fast-food, toi ?
Assez rarement,
mais tu y vas de temps en temps.
De temps en temps.
Ça t'arrive. Est-ce que toi, tu consommes des burgers, pour le coup ?
Oui.
Attention, il y a une différence, il y aura une différence entre le burger et le cheeseburger.
Alors là, ça devient compliqué. Non, j'ai pas de préférence particulière.
Alors, pour le coup,
je
si
suis
vous
plus
aimez...
frites que potatoes, par
contre. Alors, justement, on en reparlera. si vous consommez des burgers, juste le burger et sans le fromage, ou en tout cas sans la grosse couche de fromage, il se pourrait bien que vous soyez un traditionnaliste, un poil dogmatique sur les bords. Vous supportez mal être pris au dépourvu. Et selon vous, chaque problème mérite d'être traité avec un protocole précis, le vôtre, bien entendu.
Okay.
Voilà. Il y en a qui sont adeptes également des tenders, tu sais.
Exactement.
Le poulet un peu façon KFC, même si on n'a pas le droit vraiment de citer des marques. Mais quoi qu'il en soit, si vous aimez ça, ça ferait de vous une personne particulièrement distinguée au milieu de tous ces mangeurs de burgers. Toutefois, bien que votre délicatesse vous caractérise, vous êtes à côté de ça un individu plutôt facile à vivre, devant qui il n'est pas nécessaire de succomber, de s'encombrer de manière.
Voilà. De superflu.
Exactement,
voilà.
Superflu. Okay. Les amateurs de nuggets, tu en es un ? Ou pas du tout ?
Pas du tout.
Pas du tout. Ouais. Alors la psychologue loue notamment votre joie de vivre. Pour les amateurs de nuggets, en revanche, elle n'a pas manqué de souligner que leur incroyable optimisme peut à certains moments manquer de spontanéité. Et enfin, je n'ai rien sur les frites, mais pour les fans de cheeseburger, sachez-le, vous êtes près de vos sous.
D'accord. Donc vous aimez le cheeseburger, vous êtes une pince.
Exactement.
Pourquoi ? Parce que c'est le burger qui coûte le moins cher, peut-être ?
Je ne sais pas du tout. Okay. En fait, elle n'a pas véritablement illustré ses dires, mais apparemment, cette étude montre que si vous aimez les cheese, vous êtes un petit peu près de vos sous.
J'ai l'impression que dans cette étude, il y a à boire et à manger.
Complètement.
Ah, sans faire de mauvais jeu de
mots. Complètement à boire et à manger, mais je voulais absolument vous en parler.
Le meilleur de Lac, en replay,
sur la nouvelle application Radio Lac.
Cause right now I don't wanna think our love just fade away.
Je ne sais pas si vous avez si vous êtes tombé sur cette vidéo qui tourne beaucoup depuis hier sur les réseaux sociaux et sur les médias du monde entier. Une petite altercation, a priori, entre le président français Emmanuel Macron et sa femme.
Brigitte.
Brigitte, ça s'est passé dimanche soir, je crois, au Vietnam. Alors, arrivé sur le tarmac de l'aéroport au Vietnam. On y voit, alors, donc les téléfilms, hein, il y a des journalistes, et on y voit la main de Brigitte. Repousser ou gifler le président français.
Ah, c'est plus que repousser là. C'est une petite giflette quand même.
On sent qu'il y a une altercation.
Ah là, il y a une altercation et apparemment, il a mangé tout le paquet de chips à la crevette.
Tu penses que c'est ça?
Peut-être, j'en sais. En tout cas, moi, je pourrais faire ça pour les paquets de chips à la crevette. Hein. Attention.
Alors, il a
hein.
défoncé les toilettes de l'avion, c'est peut-être ça. Et la Brigitte n'était pas contente du tout. Ce qui est très drôle, ce sont les justifications. Le président qui a essayé de se justifier. L'Élysée aussi qui a dit que c'était un fake avant de se raviser en voyant différentes images filmées par différents axes, différentes caméras présentes sur place.
C'est en train de faire grand bruit parce qu'apparemment, il pourrait, alors ça reste du conditionnel, mais il pourrait écourter leur voyage donc en Asie
à cause de cet
altercation. Ouais.
Moi, ça me fait penser à toutes ces petites choses que l'on essaye de justifier. Tu sais, dans un moment un petit peu gênant, il y a peut-être plein d'exemples qui vous viennent en tête. Moi, il y en a un particulièrement quand tu sors des toilettes, tu as les mains mouillées et là, tu tombes sur ton boss qui veut te serrer la main, qui veut te dire bonjour. Et tu sais que tu as les mains un peu humides parce que tu viens de te laver les mains, mais tu trouves quand même obligatoire de le justifier en disant c'est de l'eau. Hein.
Je suis d'accord avec toi.
Ça, c'est toujours la justification un petit peu étrange.
C'est compliqué, mais ça sert encore des mains maintenant après Covid
Toujours, ouais. Il y a des gens qui aiment bien ça, tu vois. Ouais. Surtout quand tu sors des toilettes.
Ouais, c'est ça.
Pourquoi pas. Il y a ces petits bruits de ventre aussi, tu sais, quand tu as faim ou quand tu es simplement en train de digérer. Parfois, c'est assez violent, ça peut s'entendre notamment dans une séance et tu te trouves toujours obligé de dire que ce sont des bruits de ventre et non pas autre chose.
Oui.
Voilà,
parfois,
c'est un petit peu gênant.
Ça fait même pas bruit de ventre. Hein.
Ouais.
C'est quand même assez. Ça fait gastrique, quoi. Hein.
Oui.
On est d'accord.
Très gastrique. Autre scène que vous avez forcément toujours déjà vécue. Vous êtes seul dans un ascenseur, vous en profitez pour vous soulager peut-être un petit peu.
Oh non, mais c'est pas.
La porte s'ouvre, quelqu'un monte dans l'ascenseur.
Ah, moi j'ai
ça
trop
aussi,
peur.
C'est une justification un peu gênante. Et là, tu inventes n'importe quoi en disant
Oh,
dis donc, ce sont les égouts aujourd'hui. C'est terrible. Non, mais c'est vrai, vous avez plein de scènes qui vous viennent
terrible.
En tête.
C'est terrible.
Ces justifications toujours gênantes, vous en avez peut-être d'autres. N'hésitez pas à nous les proposer ce matin. Ça se passe sur le WhatsApp de Radio Lac 079 918 3000. On assume. On assume.
Il y a Antoine qui nous envoie un message. Il écrit Emmanuel Macron s'est fait gifler car il a dit à madame qu'elle ressemblait à Patrick Juvet à la sortie de l'avion.
Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch.
I was loneliness and sickness of a life and all its pain. Cause the chase no happy ending, although we try. And the day among the faces I saw yours, it was so bright. I realized I was no lonely after all. So here. please don't stop giving me, don't stop giving me love. Cause I'm taste the power to send it back to where it's from. Oh, please don't stop giving me, don't stop giving me, oh. Cause the world seems to steal it away from our soul.
Ce matin, Carole, dans l'étude du jour, de quelque chose qui est peut-être très important pour vous, le fait de quitter les chaussures avant de rentrer chez vous à la maison, dans votre appartement, et surtout d'inviter eh bien, les personnes qui viennent chez vous à le faire. Alors, c'est valable pour les amis qui viennent souper, c'est aussi valable pour le réparateur. Moi, j'ai eu quelqu'un qui est venu réparer la hotte, je lui ai gentiment demandé d'enlever ses chaussures.
Ah oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais le pire, souvent, c'est que moi, je suis face à des personnes qui me regardent et qui me disent « Ah, t'es comme ça, toi ?» Non mais t'es comme ça toi quoi ? Enfin je veux dire à un moment donné tu marches dehors dans les caca de chien avec tes chaussures, c'est quand même pas désagréable d'enlever les chaussures. Chez moi c'est propre.
Mais en plus,
j'ai pas envie de passer la panosse derrière.
Et
quoi.
On n'a pas besoin de se justifier. C'est notre maison, c'est notre intérieur, c'est notre intimité.
C'est nous qui payons. Alors,
exactement.
Tu payes le loyer toi ? Pas du tout.
Et alors quelles sont ces raisons qui nous poussent finalement à enlever les chaussures avant de rentrer chez nous et d'inviter aussi les personnes à en faire de même quand ils viennent à la maison, eh bien, il y a autant finalement la problématique de la propreté, c'est ce que nous dit une étude britannique.
Ah, moi, c'est clairement
La propreté, évidemment, et encore plus depuis l'épisode Covid. C'est vrai que ça a accentué un petit peu ce phénomène de laisser ses affaires de l'extérieur à un endroit et puis d'être chez soi avec d'autres affaires ou en chaussettes, tout simplement. Il y a aussi le phénomène de toutes ces nouvelles tendances venues notamment des pays du Nord où tu sais, quand tu es chez toi, tu dois avoir des habits confortables. Tu mets soit un petit pyjama, soit une tenue d'intérieur.
C'est cocooning. Et les chaussures, c'est loin d'être cocooning.
C'est pas cocooning. Donc là, tu fais quoi? T'enfiles en ce moment des grosses chaussettes en laine, par exemple.
C'est cocooning, ça.
Donc il y a ces aspects-là. Et puis, il y a aussi, et ça, on n'y pense pas forcément, il y a aussi quelque chose de culturel, de traditionnel, qui nous vient de très loin, notamment du Moyen-Âge, où quand on. C'était un rituel, finalement, d'enlever ses chaussures quand on pénétrait dans la propriété de quelqu'un d'autre. C'était normal, c'était un signe de politesse, de bienséance là-dessus.
Ouais.
Et puis alors, une toute dernière chose, effectivement, parce que je lisais un peu les pour et les contre de demander à quelqu'un que tu invites chez toi d'enlever ses chaussures, c'est que la personne peut être gênée, tu vois, si elle a par exemple des chaussettes trouées, ou si elle a, je sais pas, tu sais, les doigts et pieds qui se montent les uns sur les autres, comment on appelle ça, les hallux valgus.
Hallux valgus, c'est l'oignon que t'as sur le côté.
Les oignons aussi, ou alors l'été, tu sais, quand il y a les petites odeurs, on a tous connu ça, forcément. Donc ça peut quand même entraîner des situations un petit peu gênantes. Pensez-y la prochaine fois.
Je préfère des chaussettes trouées plutôt que des chaussures sur mon parquet. Ah mais vraiment, je ne peux pas, quoi. Mais le pire, vraiment, encore une fois, vraiment le pire, Fabien, c'est les gens qui me regardent et qui disent « Ah bon ? Ah bon ?» Et vraiment, et j'ai déjà été confrontée à quelqu'un qui m'avait dit, et en plus c'était le papa, c'était le papa du père de mes enfants, il m'avait dit « Eh ben dans ces cas-là, je reste dehors. » Et j'ai dit « Eh ben restez dehors. » Restez dehors, je vous sers une bière. Et je lui avais dit, et du coup, il m'avait regardé et du coup, il avait fini par enlever ses chaussures. Mais c'est vrai que c'est quand même chez nous, quoi. On fait ce qu'on veut. Si on n'a pas envie de saleté, eh bien voilà, c'est respectable, non ?
Vous saurez maintenant que Carole préfère des pieds qui puent à des chaussures dans son intérieur.
Ah mais complètement. Complètement.
Toute la nuit, réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
Empty pages in my book, and the Fabien et Carole. On parle de quoi aujourd'hui ?
On parle de quoi aujourd'hui ?
Eh bien,
on aurait pu parler des 18 ans de Lou, la fille de Cindy. Elle nous a envoyé un message, elle nous a dit « Oui, ma fille Lou fête ses 18 ans aujourd'hui. Après, elle ne vous écoutera plus. Est-ce que vous pouvez lui souhaiter un bon anniversaire ?»
Eh bien non,
eh bien, on n'en bon parlera anniversaire. Pas
on
aurait pu, mais on ne le fera pas.
On l'embrasse.
On l'embrasse,
oui. Bah oui, bon anniversaire. On va parler des bouchons, des embouteillages à Genève qui sont évidemment notre lot quotidien. Mais surtout ce matin, on aimerait vous partager un petit extrait d'une vidéo qui a fait un certain buzz sur les réseaux sociaux. On dit ça. Ça a fait le buzz.
Ça veut dire
que ça a été très partagé. C'est une parodie que l'on doit à Laurent Nicolet. Vous vous rappelez de Laurent Nicolet, la revue notamment.
Il
fait de la radio, on l'adore.
Bien
humoriste,
évidemment.
Comédien, metteur en scène aussi.
Qui nous manque à Genève,
bah oui,
je trouve.
Vrai.
Mais bon, il va bien, il n'est pas mort, hein, on vous rassure.
Il va tout bien.
Il va tout bien, il habite plus du tout dans ce pays, mais alors il vit sa best life.
C'est
je crois.
Je crois en Amérique.
Ouais, il me
Amérique
semble.
Latine, si je dis pas de bêtises.
Je crois. Il est où? Je ne sais plus du tout.
Moi non plus, mais il est loin.
Ouais,
il est loin, mais il continue d'avoir un regard assez aiguisé sur Genève. Et il a notamment posté sur les réseaux sociaux une parodie Genève et ses embouteillages.
Costa
petit
Rica.
Extrait.
Je
voilà, il est au Costa Rica, on l'embrasse. Voilà un extrait de cette chanson dédiée aux embouteillages genevois.
Il y a des chantiers dans toute la ville. C'est un truc à devenir débile. Déjà qu'avant, on roulait au pas. Maintenant, ça circule vraiment pas. Et pour te rendre jusqu'à Schaumbourg, depuis mes reins, ça prend deux jours. C'est plus une ville, mais c'est un trou. Des petits, des grands, y'en a partout. De Malagnou jusqu'au Charmy, on dirait le golfe de Colonie. Rouler à Genève, c'est un enfer. C'est plus une ville, mais un grand cratère. Aller de Champel à la Servette, faudra bientôt prendre EasyJet.
Pas mal, hein?
Eh ouais.
Allez, ça rentre dans la tête. Et puis moi, j'adore les paroles, on s'y retrouve évidemment.
Une petite ligne EasyJet. Charmy, Servette, ça peut être pas mal.
Pas.
Hein.
Ouais. Ça serait plus rapide que par la voiture, certains jours, même par les TPG. Voilà, petit extrait de cette chanson que l'on doit à Laurent Nicolet, ce qui nous amène à la question qu'on va vous poser ce matin. Quel est pour vous le pire embouteillage à Genève en ce moment? Dites-le nous, partagez un petit peu votre quotidien, ça se passe sur le WhatsApp de Radio Lac.
Voilà, n'hésitez pas à 079 918 3000, quel secteur à votre avis est le plus embouteillé à Genève? J'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup d'eau vive, je pense.
Je pense, peut-être aussi quartier de la gare, la Servette,
grand
classique. Allez-y, partagez tout ça. Pour vous, le plus gros embouteillage à Genève se trouve où? Le Pyrax. Partagez votre quotidien. Voilà.
Il y a deux jours, je me suis retrouvée aux Acacias. On est quand même pas mal aussi. Hein. Juste pas très loin de la radio, là. Aïe, 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 aïe.
Alors, les mauvaises langues diront que c'est un petit peu partout. Et on ne pourra pas vous donner tort.
Le meilleur de Lac, en replay,
sur la nouvelle application Radio Lac.
Yeah.